notre deuxième émission, nous avons demandé à M. Michel Cazenave de venir s'entretenir avec nous du mythe de Tristan et Isolde. Je dis tout de suite Isolde et non pas Isolde, comme le Tristan et Isolde de Wagner, elle est appelée. M. Michel Cazenave est l'auteur d'un ouvrage qui est sorti en 1969 chez Corti, intitulé « Le filtre et l'amour ». Le filtre et l'amour. Michel Cazenave, j'ai pris un très très grand plaisir à lire votre livre, d'autant plus grand que, si j'ai bien compris votre propos, l'idée de votre livre vous est venue à la suite d'une lecture du trop fameux livre de Denis de Rougemont, « L'amour et l'Occident », livre, si je ne me trompe, qui vous a irrité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Irrité, oui, ce serait même un mot faible. Quand vous parlez du livre trop fameux de Denis de Rougemont, je dirais plutôt, quant à moi, du livre tristement célèbre de Denis de Rougemont.
C'est le moment de le dire.
Alors, historiquement, d'une certaine manière, en effet, c'est le livre de Denis de Rougemont qui m'a poussé à entreprendre le travail, qui a donné naissance à mon étude sur Tristan et Isolde.
Alors, que reprochiez-vous, au fond, à Denis de Rougemont, non ?
Je reprochais quelque chose de très simple, c'est au fond de ne pas avoir compris le mythe de Tristan et Iseult, et non seulement de ne pas l'avoir compris, mais d'une manière tout à fait partiale, de l'avoir complètement déformé, je dirais presque mutilé.
Moi j'ai l'impression qu'il l'a escamoté, ce serait mon mot.
Si vous voulez, je pense que ça va quand même plus loin. Ça va plus loin dans la mesure où il y a tout de même une thèse qui est évidemment chrétienne dans son fond, qui est bâtie exprès pour dénoncer, car Denis de Rougemont ne se prive pas à plusieurs reprises, de dénoncer le mythe de Tristan et Iseult, qui selon lui est mortel pour notre civilisation actuelle.
En quoi avez-vous pu déceler que son interprétation est erronée et quelle interprétation proposez-vous en échange de la sienne ?
Bien, en quoi j'ai pu déceler que son interprétation était erronée ? Là, je pense que c'est assez facile. Il y a d'abord une certaine malhonnêteté intellectuelle qui consiste à mêler des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, pour expliquer Tristan et Iseult, on mélange les cathares, on mélange le tantrisme, on mélange le Tristan médiéval, on mélange le Tristan de Wagner. De tout cela, on fait une...
Et l'amour courtois.
Et l'amour courtois, effectivement. On fait une sorte d'infâme brouet. Et à partir de cela, on veut expliquer la légende médiévale. Bon, ça évidemment, c'est une méthode de travail qui me semble parfaitement condamnable. Si on veut expliquer réellement Tristan et Iseult, il me semble que la première chose à faire, c'est tout de même de lire la légende, et non seulement de lire la légende, mais d'en suivre en quelque sorte l'histoire, la manière dont elle s'est formée.
Alors pouvez-vous nous brosser succinctement l'histoire de cette légende ?
Très succinctement, on peut considérer que c'est une légende qui est d'origine celto-picte, c'est-à-dire aux confins, si vous voulez, de l'Angleterre actuelle et de l'Écosse, qui, évidemment, a évolué dans deux sens différents, c'est-à-dire dans deux aires géographiques différentes, plus exactement. L'une étant l'Irlande et l'autre étant le continent, c'est-à-dire principalement la France.
Légende colportée par la langue celte.
Tout au moins au départ, oui, effectivement, c'était porté par la langue celte. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir la différence entre ces deux évolutions qui se sont produites, donc séparées géographiquement l'une de l'autre, et qui ont fini par donner des sens totalement différents à la légende, enfin, si vous voulez, aux deux corps de légende qui en ont suivi. Alors, il est évident que pour nous, en fait, c'est la légende continentale qui importe, puisque c'est sous cette forme que nous la connaissons. Mais, évidemment, une comparaison entre les deux États, peut-être très riche d'enseignements.
C'est d'ailleurs à cette étude que vous vous livrez dans votre livre. Mais pouvez-vous alors aller plus avant et nous dire en quoi, au fond, la légende irlandaise se départit de la légende occidentale et en quoi les différences sont révélatrices ?
C'est qu'en fait, la légende irlandaise est restée très, très archaïque, si vous voulez, très proche du modèle primitif. C'est simplement une histoire, un conflit entre le sens du devoir et le sens de l'honneur. Cela, on n'a pas à chercher plus loin pour l'interprétation, cela se donne directement comme tel. Alors que dans la légende continentale, par rapport à la leçon primitive, nous voyons intervenir des éléments déterminants. Ces éléments, ce sont tout d'abord l'initiation spirituelle de Tristan, initiation qui réside dans le combat avec le Morholt, dans son voyage à l'Irlande, dans le combat contre le dragon qui ravage l'Irlande, toute chose extrêmement importante. Et puis surtout, c'est tout à coup dans l'irruption du symbole du filtre que nous n'avons absolument pas dans les légendes irlandaises. Et il faut bien voir que ce symbole du filtre est absolument central dans la légende continentale telle que nous la connaissons. Et c'est cela qui, d'un seul coup, donne justement une dimension spirituelle à un conte, si vous voulez, qui jusqu'alors n'en avait pas.
Pardonnez-moi, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. Avant d'en venir au filtre, vous avez évoqué le dragon. Alors, je pense que avant, si vous voulez, on pourrait planter le décor.
Oui.
Donc, Tristan franchit la mer dans le but d'aller détruire ce dragon, dans le but d'aller conquérir, pour le compte de Marc, c'est bien cela ?
C'est cela.
Pour le compte de Marc, cette fée, cet être immatériel, en même temps, car elle a déjà dans l'esprit de la légende, il y a déjà dans cette personne quelque chose d'immatériel. On sent qu'il va à la conquête d'une force spirituelle.
Exactement.
Alors, ce dragon est une barrière qui le sépare de cette conquête future. D'ailleurs, le dragon, il me semble, a toujours été dans le bestiaire fabuleux, dans le livre de Kléber, par exemple, il en parle longuement, où il place ce dragon comme le défenseur de la virginité, le défenseur de la femme, mais le défenseur de la lumière qu'elle apporte, encore peut-être plus que de sa personne.
Oui, effectivement, il faut dire que le dragon est un symbole que l'on retrouve pratiquement dans toutes les mythologies populaires, toutes les contrées du monde. Mais il faut aussi le voir ce qu'il signifie profondément.
Voilà.
Il s'agit pas d'en rester simplement à la surface des choses. Or, il a deux acceptions qui, évidemment, sont extrêmement liées l'une avec l'autre. La première, c'est que, de manière générale, il est le symbole des forces du mal, si vous voulez, des forces de la perversion. Et quand Tristan combat le dragon et tue le dragon, cela veut dire justement que Tristan tue les forces de la perversion en lui-même.
Il s'agit de savoir si, en se rendant maître de ce dragon, il va vivre un désir avilissant ou un amour qui va l'élever.
La mort du dragon va signifier la découverte de la lumière pour Tristan. Mais il y a aussi un second sens qui est tout aussi important. C'est Jung, je crois, qui déclare que le dragon représente une sorte de masse informe de libido incestueuse. Et cela, il ne faut surtout pas oublier de le dire, c'est que tuer le dragon pour Tristan, c'est en quelque sorte tuer l'aspect noir, l'aspect maléfique de la femme. C'est tuer la sorcière ou la goule ou le vampire, si vous voulez. Et le tuant, ce n'est qu'alors qu'il pourra découvrir l'isote lumineuse, l'isote source de vie et d'inspiration.
Nous retrouverons d'ailleurs cette idée, je pense, dans les émissions suivantes. Mais alors, revenons-en maintenant au centre de notre entretien, au filtre.
Oui.
Alors, vous dites que ce filtre ne figure pas dans la première version.
Il ne figure absolument pas dans la première version. Ou plus exactement, il y figure, mais d'une manière telle que cela inverse complètement le sens de la légende. Je veux dire par là que dans la première version primitive et dans les versions irlandaises telles qu'on les trouve par la suite, le filtre est en fait une potion endormante que Ise, ou l'équivalent d'Iseut dans les divers états, fait boire à tout l'entourage, de manière que Tristan et Iseut se retrouvent seuls.
Le filtre est donné à tous,
sauf à Tristan et Iseut, justement.
C'est le contraire de ce que l'on croit.
Tandis que dans Tristan et Iseut, ils ne boivent le filtre qu'alors que tout le monde a abandonné le navire où ils sont seuls, et c'est eux qui le boivent. Donc vous voyez, c'est exactement le contraire.
À l'inverse, ça. Parlons de ce filtre encore. Quel lien établissez-vous entre ce filtre et ceux de la sorcière de Michelet, entre le filtre qui visiblement conduit à la lumière et puis ceux qui, eux, conduisent à la mort?
Oui. Écoutez, de toute façon, je pense que vous serez amené certainement au cours de vos émissions à parler de la sorcière de Michelet, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus. Mais enfin, quand on lit ce livre fantastique, il est certain que nous sommes devant un certain type de filtre extrêmement singulier. Puisque tout d'abord, souvent, et Michelet l'écrit en toutes lettres, il s'agit de filtres composés, disons le mot tel qu'il est, avec de l'urine. Et l'un de ses objets est de tester la passion, de savoir si l'amant sera capable de le boire. En fait, il s'agit d'un filtre qui en plus force la volonté, qui oblige le héros. C'est donc un filtre qui, d'une certaine manière, aliène les personnes qui le boivent. Alors qu'il est bien évident qu'il n'est rien de tel dans Tristan et Iseult. Puisque, au contraire, ce filtre est, dans Tristan et Iseult, ce qu'il permet, tout à coup, à leur personnalité de se développer, de s'épanouir, et que, très nettement, il est l'aboutissement de toute l'initiation spirituelle de Tristan. Donc, d'un côté, vous avez, si vous voulez, le filtre noir, qui détruit la personnalité, alors que là, au contraire, nous avons une boisson qui est en fait uniquement pratiquement là que du point de vue symbolique, car il faut bien voir que le filtre, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, n'est absolument pas une cause de l'amour de Tristan Iseult, il n'en est simplement que le symbole de manière à donner une intuition poétique. Nous avons un filtre qui est au contraire l'accession aux sphères de la lumière et aux sphères de la joie.
Dans votre livre, vous expliquez ça d'ailleurs d'une manière très précise, vous dites qu'il n'y a pas faute puisqu'il y a filtre. Au fond, ce filtre est à la fois la faute, mais la justification de l'absence de toute faute. La notion d'amour coupable, pour vous et pour Tristan, n'existe pas, puisqu'il y a filtre.
Oui, plus que cela, parce que si on dit « puisqu'il y a filtre », cela reviendrait à dire, au fond, qu'effectivement, le filtre les a forcés. Or, je vous dis, non, le filtre ne les a absolument pas forcés. C'est simplement l'expression de leur amour, l'expression de la fatalité, si vous voulez, de leur amour.
Vous dites ça mieux que moi, et c'est pas
alors, étonnant. Évidemment, l'amour coupable, ça n'a strictement aucun sens.
Oui.
Puisque la tension essentielle, si vous voulez, qui parcourt le roman de Tristan, c'est justement ce combat entre la fatalité, la fatalité qui, par définition, est irresponsable, qui ne connaît pas de faute, la fatalité est parce qu'elle est la fatalité, et puis c'est tout, et la loi morale.
En somme, ce mot « coupable » ne définit que ceux qui le prononcent. Ce sont eux qui sont coupables.
Exactement, puisque quand ils disent « coupable », cela veut dire qu'eux reconnaissent une loi morale.
Savez-vous que dans justement ce fameux livre de Frenger sur Jérôme Bosch, et dans ce tableau de Jérôme Bosch, qui est le royaume millénaire, la partie droite, qui est la partie où vivent les gens dans l'enfer, sont fermés, justement, ils brûlent et sont détruits, coupables. Et les coupables, ce sont ceux qui, là aussi, voit la faute, le péché dans l'amour, alors qu'au contraire, c'est l'occasion du salut. Il y a un point très important, c'est Marc, et les liens qui unissent Marc et Tristan. Il semble que pour Tristan, Marc soit l'équivalent plus que de son père. Il a remplacé pour l'adolescent Tristan le rôle que tenait sa mère. Et au fond, je ne sais pas si je me trompe, il me semble que c'est dans la mesure où Tristan parviendra à se défaire de l'empire que Marc a sur lui, empire qu'il a voulu, qu'il a souhaité, qu'il retrouvera et qu'il atteindra enfin Iseult. C'est là le rébus de leur amour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Marc et des rapports?
Ah oui, ça c'est une grande question et assez complexe.
Oui.
Marc, dans mon livre, c'est ce que j'appelle le père mystique. Et que faut-il entendre par là? C'est qu'à l'évidence, il n'est pas le père de sang de Tristan, mais qu'au contraire, c'est Tristan qui l'a choisi.
Il est l'initiateur de Tristan.
Ah non, il n'est même pas l'initiateur de Tristan.
Non, oui, pardonnez-moi, il y a un personnage qui intervient avant.
Oui, effectivement, quand Tristan rencontre Marc, Tristan, en fait, est déjà un chevalier. Il a parcouru toute son enfance. Lors de la première rencontre avec Marc, justement, tombe en admiration devant Tristan, tellement Tristan est un fin chevalier, car il connaît les coutumes de vénerie encore beaucoup mieux que les gens de la cour de Marc. Donc vous voyez, Tristan est déjà un être totalement formé.
Rappelez-nous le nom de cet initiateur de Tristan.
Dinas de Lydan. Dinas de Lydan et Roald le Foitenant, il faut dire aussi, qui en fait a été le précepteur, si vous voulez,
c'est
de
ça.
Tristan. Donc lorsque Tristan rencontre Marc, Tristan est nettement présenté comme étant déjà supérieur à tous les chevaliers qui entourent Marc, et au fond à Marc lui-même. Alors, c'est là que nous voyons tout de suite quelle est la faille, justement, dans l'âme de Tristan, puisqu'il voit en Marc une instance supérieure, si vous voulez.
Dont il a besoin.
Une instance supérieure dont, certainement, il doit avoir besoin, ce qui est en même temps le signe, si vous voulez, d'une immaturité de son âme, comment dire en psychanalyse, d'une fantaisie de l'esprit.
C'est donc au fond de lui que se présente le conflit.
Exactement, c'est au fond de lui que se présente le conflit. Et ce qui le dénote encore plus, c'est au fond, là, il faudrait faire un petit peu d'étymologie, c'est ce que signifie ce nom de Marc lui-même.
Je vous en prie.
Après tout, du point de vue de l'origine, nous retrouvons un complexe assez extraordinaire, puisqu'il vient d'un radical indo-européen qui a donné des mots aussi divers, mais qui se retrouvent tous dans la même nébuleuse, si vous voulez, que sont la mort, que sont l'épidémie, que sont le cauchemar et que sont le cheval. Et j'insiste bien sur le cheval dans la mesure où, dans beaucoup de légendes populaires, si vous voulez, dans l'inconscient collectif, et au Moyen-Âge c'était encore très vivant, le cheval était le symbole même de ce qui emportait les morts vers l'enfer. Donc vous voyez tout de suite les résonances, et les résonances mauvaises que Marc peut avoir.
Résonances mauvaises dont Tristan a besoin, qu'il constitue pour lui un cadre dont il a besoin.
Si vous voulez, en fait, c'est justement la reconnaissance du roi au-dessus de lui, de l'instance supérieure, de la loi morale, enfin on pourrait mettre beaucoup de mots là-dessous, dont Tristan a besoin parce que finalement, il n'est pas encore assez mûr pour vivre totalement son destin.
En vous écoutant, je pense à ce roman du Moyen-Âge d'un auteur anonyme qui s'appelait La Châtelaine du Vergy. C'est un roman en vers, car le mot roman signifiait une forme versifié. Et dans ce roman de la Châtelaine de Vergy, le héros se trouve dans une situation telle qu'il est contraint d'avoir à dire à son roi quel est le nom de celle qu'il aime. Le roi a l'intention de l'envoyer dans une mission et il veut savoir ce secret. Et la dame de ses pensées, comme le disaient les gens de l'amour courtois, la dame de ses pensées lui avait dit au préalable que si un jour il révélait son nom, eh bien, leur amour disparaîtrait. Quelle comparaison faites-vous entre cette châtelaine de Vergy et Tristan? Est-ce qu'ils ne se trouvent pas par rapport à Marc dans la même situation?
Pas du tout. Je dirais presque qu'entre la châtelaine de Vergy et Tristan et Iseult, c'est la même différence qu'entre le jour et la nuit.
Bien. Et pouvez-vous nous préciser, c'est ça que je voulais vous faire dire, cette différence, justement?
Oui, évidemment. Dans la châtelaine de Vergy, donc, le chevalier ne doit pas dire son nom. Sous peine de quoi, son âme ne l'aimerait plus. Je voudrais bien savoir, dans Tristan, ce qui pourrait faire que Iseult, par exemple, n'aime plus Tristan. C'est absolument impossible, puisque son amour pour Tristan est constitutif de sa propre vie. Il n'y a qu'à prendre la fin de Tristan. Quand Tristan est blessé, il est blessé à mort, et il y a une seule femme, une seule personne qui pourrait le sauver, c'est Isola Blonde. Eh bien, il envoie son écuyer, Gorvenal, aller la chercher en Cornouailles. Et Iseult n'hésite pas un instant, et Marc sait très bien dès lors ce que cela signifie, Iseult n'hésite pas un instant à prendre la mer, à abandonner son mari, pour venir soigner Tristan.
Eh bien, nous venons, je crois, de préciser un point important. D'une phrase, nous revenons à Denis de Rougemont. J'ai l'impression que Denis de Rougemont, lui, fait de Tristan un personnage de l'amour courtois, alors que vous venez de nous prouver que c'est exactement le contraire.
Mais oui, bien sûr, c'est exactement le contraire. Tristan ne peut pas relever de la courtoisie. Pensez par exemple que dans la courtoisie, l'un des commandements est que l'amour se mérite. Enfin, oui. Imaginons que Tristan soit une personne réelle, allez lui dire que l'amour se mérite. Mais l'amour ne se mérite pas. L'amour existe, un point c'est tout.
Vous avez il y a un instant parlé d'Iseult la Blanche, mais vous n'avez pas encore évoqué Iseult aux blanches mains. Pouvez-vous nous parler d'elle et de son rôle?
Iseult aux blanches mains, eh bien justement, il faut revenir alors aux leçons primitives de la légende. Puisque dans l'état archaïque de l'histoire de Tristan et Iseult, Iseult forçait Tristan à la suivre, et en fait Tristan n'aimait pas du tout Iseult, il obéissait simplement à une injonction magique. À partir du moment où s'est rajoutée cette initiation spirituelle, où s'est rajouté ce filtre qui introduisait la notion de fatalité de l'amour, et donc de tension, je le répète, entre le tragique et la loi morale, il était bien évident qu'on ne pouvait plus conserver une telle situation entre Tristan et Iseult, c'est-à-dire un Tristan, je dirais presque frigide devant Iseult. Et cet aspect archaïque de Iseult, il fallait s'en débarrasser. S'en débarrasser, eh bien on s'en est débarrassé en inventant une seconde Iseult, Iseult au blanc chemin, avec qui justement Tristan se marie, et avec qui il est quasi incapable de remplir ses devoirs conjugaux.
Mais c'est le péché suprême, car avec Iseult aux blanches mains, il trahit...
Il trahit Iseult la Blonde, il trahit son amour, il se trahit lui-même. Et ce n'est quand même pas un hasard, je pense, si Tristan va connaître la mort, justement, dans les terres d'Iseult aux blanches mains, en compagnie d'Iseult aux blanches mains, et parce que Iseult aux blanches mains, contre toute vérité, va lui affirmer qu'Iseult la Blonde ne répond pas à sa prière.
Ah oui, c'est elle qu'il trahira en lui disant que la voile est noire.
Exactement, alors qu'elle est blanche. C'est Iseult au blanc chemin qui fait mourir Tristan.
Encore un point. Dans la deuxième version, ça n'est plus Iseut au Blanche-Main qui trahit et qui annonce cette voile est noire, mais c'est Marc. Vous n'avez pas une interprétation à nous donner et une raison pour laquelle cette déviation-là se produit dans la deuxième version?
Tristan vogue vers Iseut. Et c'est Marc qui annonce à Iseut que Tristan ne vient pas. D'où désespoir d'Iseut qui se tue.
C'est donc l'inverse.
C'est donc exactement l'inverse. Mais je pense encore là une fois que c'est tout à fait normal, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le filtre et l'initiation spirituelle inversent d'un coup tout le sens de la légende, en l'amenant justement au niveau spirituel. Quand c'était Iseut qui forçait Tristan à l'aimer, il était normal que ce soit Iseut qui meure la première, en quelque sorte qui succombe à la faute, puisque nous étions là dans le régime de la faute. Tandis qu'ici, nous sommes au contraire dans le royaume de la fatalité. Et c'est Tristan qui a fauté, qui d'un seul coup est redescendu justement du niveau du destin à tout à coup le niveau moyen, le niveau de la loi morale. Donc c'est évidemment à ce moment-là Tristan qui doit mourir le premier, qui doit expier son péché et qui, à travers la mort et une mort rédemptrice, retrouvera la plénitude de son amour.
Je voudrais, pour finir, insister sur ce point. Tout ce que vous nous dites de Tristan et du filtre nous prouve qu'au fond, cette conquête est une conquête sur lui-même. Il a tout un cheminement intérieur qui doit le conduire à la lumière. Et cette lumière, il doit la gagner sur sa nuit personnelle. Vous dites ça très bien à la fin de votre livre, en transposant au fond cette recherche d'Isolde sur un plan métaphysique, disons, et qui nous intéresse cette fois tous, tant que nous sommes. Vous dites... Notre noblesse, c'est de vivre sur les ruines d'un monde révolu. Notre noblesse est d'abandonner les anciens refuges. L'heure sans doute a sonné où Tristan, à jamais, révoque son allégeance au roi Marc, parce qu'il a compris l'illusoire de la figure royale et qu'il l'avait créée de toutes pièces. Et peut-être, historiquement, le dernier avatar de Marc est-il notre civilisation traditionnelle, qu'il voudrait nous empêcher d'aimer Iseult, et ne subsiste que la mesure même où nous en sommes complices. Alors, pour nous, comme il a été douloureux de s'en défaire, mais comme il est exaltant de savoir qu'Iseult nous est enfin rendu. Je m'en persuade encore plus, il fallait revenir à la légende pour en tirer tout le suc caché, pour s'en nourrir et s'en fortifier, pour savoir où nous diriger. Ceux qui l'ont établi dans sa pureté savaient-ils comme sa force était subversive. Car maintenant que nous savons, c'est au-delà de la mort d'Iseult que nous allons vivre, libérés de toutes les contraintes, par-delà le bien et le mal, dans les régions inconnues et fabuleuses, où plus rien ne sépare Iseult de Tristan. Et je place au profond de nous cette table et cette charte nouvelle. La raison de l'amour, c'est l'amour. La raison d'aimer l'aimer, c'est l'aimer. La mesure de l'aimer, c'est de l'aimer sans mesure.